Il réservait 5 siècles avec Moïse. Eh oui, il faut se préparer déjà. Et puis 10 siècles avec David, parce qu'on aura du temps, tellement de choses à discuter, à savoir tout ce qu'il a écrit, je n'ai pas tout compris, comment il a connu sa vie, etc., ces choses. Voilà, donc nous venons de Nanterre, c'est la préfecture des Hauts-de-Seine. Les Hauts-de-Seine, c'est une sorte de haricot qui fait tout le tour du nord-ouest au sud de Paris. Et donc la préfecture, c'est donc Nanterre. Voilà, c'est là que nous habitons. Et nous avons commencé un témoignage à la maison, au départ, avec certains de mes élèves. J'étais enseignant pendant 35 ans. C'était très chouette avec mes élèves. C'était très chouette. Bon, bref. Et puis ensuite, le Seigneur a permis que l'assemblée grandisse. La maison est devenue trop petite. Et on a essayé de chercher quelque chose, mais je ne sais pas ici, les locations ou achats, ce que ça coûte, mais en région parisienne, on a la Défense juste à côté. C'est même pas la peine d'y penser. Alors on a cherché, puis le Seigneur a permis quelque chose de miraculeux. C'est donc la municipalité de Nanterre, ville sociale ou communiste, qui nous loge depuis maintenant une petite trentaine d'années, quoi. Vous vous rendez compte, gracieusement. Et on a de très bonnes relations avec la municipalité. D'ailleurs, nous, on a l'occasion, pour nos 50 ans de mariage, qu'on a fêté cette année, de repasser en mairie, eh oui, ça se fait, et de redire oui. Voilà. Alors bien sûr, 50 ans de mariage, ça fait un peu diplodocus maintenant, hein. C'est les anciens qui, maintenant, c'est un peu plus court, malheureusement, souvent, et c'est bien triste. Voilà, donc on continue dans notre ville de Nanterre. Le Seigneur nous a permis aussi d'avoir des places sur les marchés. Donc on peut annoncer l'Évangile, on donne beaucoup, beaucoup de choses, en particulier donc pour Nanterre. Maintenant, c'est une ville où il y a beaucoup de Maghrébins. Certains vont au Maghreb pour annoncer l'Évangile au Maghreb. Nous, c'est les Maghrébins qui sont venus, Marocains, Tunisiens, Algériens. Et ce qui est merveilleux, c'est le film Jésus. Parce qu'ils aiment beaucoup Jésus. Les musulmans aiment beaucoup la personne de Jésus. Et dans le Coran, on parle plus souvent de Jésus que de Mahomet. Peut-être, voilà. Donc, il est le fils de Marie, etc. Et je leur dis toujours, dans le Coran, on parle de Jésus, mais dans l'Évangile, c'est Jésus qui parle. Et ça les touche. Ils veulent connaître Jésus, et ça les touche beaucoup. Et le Seigneur fait des choses, je le sais. Même si on n'a pas, malheureusement, beaucoup de maghrébins qui viennent dans l'église, on sait que le Seigneur nous donne de faire des choses. Voilà. Donc l'église locale, c'est une des grandes pensées de notre Dieu. Je suis un chercheur de trésors. Et l'église locale est un trésor. L'église locale, dans la pensée de Dieu, si on réfléchit, on s'aperçoit qu'on ne pouvait pas faire meilleur système pour mettre des gens tellement différents, à tout niveau, ensemble, pour s'encourager, partager, se fortifier, etc. Ça, je vous dis, il n'y a que dans le monde chrétien qu'on compte ça. Tout récemment, c'était donc le 50e anniversaire de la mort de Martin Luther King. J'ai voulu faire quelque chose sur Martin Luther King, parce que pour moi, c'est un personnage important, où il avait, lui aussi, comme David, des choses qui n'étaient pas très claires, mais c'était un homme qui a, au nom de l'amour, réussi à mettre ensemble, côte à côte, dans la grande marche, des Noirs, des Blancs. C'était fantastique. Surtout dans un pays comme les États-Unis, où le ségrégationnisme existe encore aujourd'hui. Et ça, c'est fantastique. Et je dis, il n'y a que dans l'Église de Jésus-Christ où il peut y avoir une unité absolue. Et il faut qu'il y ait une unité absolue. On n'a pas à reconstruire des murs que le Seigneur ne sait plus à détruire. Attention. Et ça, c'est extraordinaire. Donc l'église locale, c'est une pensée extraordinaire de la part de Dieu. Alors quand on regarde dans les évangiles, on est étonné. Combien de fois le Seigneur Jésus a-t-il parlé de l'église? 2 fois. C'est peu. Mais après, comme c'était prévu, le Seigneur avait dit, le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses, et les épîtres sont tout un enseignement concernant justement la vie d'église, comment cela fonctionnait, etc., etc. Connaissez ça. Le premier passage dont le Seigneur parle, c'est dans Matthieu 16 et au verset 15. Vous savez donc cette déclaration que Pierre fait en disant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». C'est la première fois que quelqu'un disait vraiment au Christ qui il était. Personne n'y avait pensé avant. Et Pierre y a pensé. Et le Christ va rebondir en disant « Tu es Pierre ». Et sur cette pierre, c'est-à-dire cette déclaration formelle, je bâtirai mon église. le séjour des morts ne préviendront pas contre elle. Et effectivement, ça fait 2000 ans que l'Église existe. Et malgré toutes les difficultés, malgré toutes les persécutions qui ont été et qui sont encore et qui viendront, l'Église a toujours été protégée d'une manière à l'autre, par l'autre, par Dieu lui-même. Donc, sur cette Église, elle est éternelle, puisqu'elle a une vocation éternelle. Nous connaîtrons la résurrection d'entre les morts, nous connaîtrons l'enlèvement et les noces de l'agneau, et je vous dis, cette éternité. Moi, ça me réjouit, ça. Ça me réjouit de savoir toutes ces choses. Le Christ a dit, je bâtirai mon Église. Elle m'appartient, je suis le propriétaire absolu de l'Église. Le deuxième passage où le Christ parle de l'Église, alors c'est un contexte étonnant, ça parle de discipline dans l'Église locale cette fois. L'Église universelle, créée il y a 2000 ans, sous toutes les latitudes. Là, c'est l'Église locale, comme vous, comme nous à Nanterre. Et donc, il y a un problème avec une personne qui ne veut pas écouter et qui pêche. Et le Seigneur, donc, il dit de le reprendre, et s'il refuse, de le dire à l'Église. Bon, bien sûr, c'est l'Église locale. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen, un publicain. Et ce qui m'a profondément touché, c'est que le Seigneur, déjà, quand il parle de l'Église locale, il parle des problèmes qu'il va y avoir. Incroyable. C'est pas un encouragement, mais déjà, il met des choses au point, des barres sur les T, des points sur les I, la manière dont on doit se conduire dans l'Église locale. Et le premier passage hors des évangiles où l'on parle de l'Église locale, c'est dans Actes 2, 47. Passage fondamental concernant la vision de l'Église. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est le Seigneur qui ajoute à l'Église chaque jour ceux qui sont sauvés. On a complètement oublié de comprendre et d'accepter cela. On croit aujourd'hui, bon, allez, je vais rentrer dans l'Église. Non, non, non. C'est le Seigneur qui ajoute. Et aussi, ça peut être le Seigneur, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, qui retire. C'est une grâce de la part de Dieu de faire partie d'une Église locale. Mais l'Église locale, c'est pas un rassemblement hétéroclite. L'Église locale, c'est pas une administration, ou une organisation, ou un club. Cette année, j'ai donné une vingtaine d'enseignements dans des églises diverses concernant donc la réforme. C'était aussi les 50, disons, c'était le 500e anniversaire de la mort, de la naissance, pardon, de Martin Luther King. De Martin Luther, tout court, pardon. Je confonds un peu tout ça. Et en visitant ces églises, je me suis aperçu que beaucoup d'églises souffraient elles-mêmes parce que dans l'église, il y avait des gens, on ne savait pas ce qu'ils faisaient là. On ne savait pas trop bien ce qu'ils faisaient là. Ils sont gentils, ils sont très sympathiques, ils sont là, ils peuvent l'être là pendant longtemps, mais sont-ils vraiment chrétiens? Sont-ils vraiment de ceux que le Seigneur a ajoutés? Non, on ne sait pas. Et ça pose d'énormes problèmes, parce qu'on ne sait plus très bien qui est qui. Et un frère, tout récemment, d'une assemblée de la région parisienne, où il y a beaucoup de monde, me disait « Je suis débordé ». J'ai des gens qui viennent, même des fois qui prennent le pain et le vin, la réunion est à peine finie, hop, ils partent comme des flèches, je ne sais pas qui c'est. Bien-aimés, l'Église locale, comme l'Église universelle, est composée que de gens que le Seigneur a ajoutés dans l'Église. Donc ici, il y a une condition nécessaire et suffisante pour que les personnes soient dans l'Église. Cette personne, c'est ce sujet, bien sûr, c'est le salut. Le salut. Alors, je reviens un peu en arrière concernant le fait que ce soit bien Christ qui construit sa maison. Vous connaissez peut-être ce psaume 127, verset 1. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent, eh bien, gardent en vain. » Et aujourd'hui, malheureusement, ce que je vois, c'est que l'Église devient plus en plus ce qu'on appelle une Église de multitude, à savoir que dans l'Église, il y a des gens sauvés et des gens qui ne sont pas sauvés. Alors les responsables d'église, ben, savent plus très bien où ils en sont, quoi. Ils savent plus très bien où ils en sont. Donc l'église locale, elle, est basée donc sur le salut, et donc elle a deux grandes tâches. Une tâche interne, l'église locale est le lieu béni pour la croissance de chacun des participants, et ensemble d'apporter à Dieu la louange et l'adoration qu'il mérite. Ça, c'est le rôle interne dans la croissance spirituelle de chacun des membres. Mais l'église locale a aussi un témoignage externe. C'est pour ça qu'on dit souvent, c'est comme un poste avancé en territoire ennemi. Nous sommes en territoire ennemi. Qui dirige le monde ? Nous le savons. Satan a même proposé au Christ, agenouille-toi devant moi, adore-moi et je te donnerai tous les royaumes du monde. Le Christ ne l'a pas traité de menteur. Nous sommes donc en pays de territoire ennemi. Et nous sommes comme une lumière, vous êtes comme une lumière dans cette ville d'Arles. Est-ce que vous vous rendez compte de la grâce que Dieu nous fait ? Des fois je me dis, la lumière elle n'est pas très, un peu vacillante, hein. On n'est pas très bon. Mais c'est le rôle que le Seigneur nous a donné. On n'a pas à discuter, si je puis dire. Je vous établis, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Donc on a un rôle externe, c'est l'annonce de l'évangile, on le sait. Matthieu 28, 18. Le Seigneur s'étant approché leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, donc autorité absolue. Je suis là. C'est notre ami, lui aussi, enfin, bien entendu. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est le rôle externe de l'Église. C'est cette lumière que le Seigneur a allumée ici à Arles. Et c'est sa volonté que vous ayez et ce témoignage interne et ce témoignage externe. Est-ce que vous vous rendez compte du rôle que vous avez? Non. Non. Moi non plus. On ne se rend pas compte de la grâce que ça représente. Comment le Seigneur peut-il prendre comme serviteur des gens comme moi, comme nous, qui prenons, pardon, 4 points, ou moins, ou plus? C'est des bâtons tordus. C'est rien. Paul dit, nous sommes les raclures du monde. Paul. Et c'est nous que le Seigneur a donné cette charge incroyable de faire connaître son nom autour de nous. Nous sommes des ambassadeurs, nous dit Paul. Ah, j'aime ce terme. Ambassadeurs. Je me rappelle une fois, ma fille était là, et là d'ailleurs, pour le dire, il y avait à Rueil-Malmaison, la ville qui est juste à côté, une nouvelle école, et il y a dû avoir dans le passé, entre Rueil-Malmaison et le Danemark, un lien très fort. Je pense qu'il y avait des soldats danois qui étaient là. Enfin bref. Et donc, ils allaient inaugurer l'école Andersen, ça va de soi, dans cette ville de Rueil-Malmaison. Et comme Marjolaine est blonde, donc a fait un peu danoise, il avait mis un joli petit costume de danoise, elle était là. Bon. Et il y avait l'ambassadeur du Danemark qui était là. J'ai jamais vu quelqu'un parler aussi beau, aussi d'une manière aussi belle, pardon, de son pays. Le Danemark, à l'écouter, c'était plus grand que les États-Unis. Les gens avaient tous un quotient intellectuel au moins niveau prix Nobel. Et je disais, mais c'est incroyable comment cet homme qui défend le Danemark, c'est pas un pays, il est pas là. Bon, c'est quand même pas un pays extraordinaire. La manière dont il parlait de son pays, je vous assure, ça m'a donné un coup de fouet pour dire, et moi, comment je parle de mon pays ? Nous sommes des ambassadeurs. Est-ce que vous aimez votre pays comme ce Danois aimait le sien? Parce que si c'est le cas, je vous assure, vous allez des ambassadeurs. Hein, mais si vous êtes là, oui, je vais te parler de l'évangile. C'est merveilleux, l'évangile, tu sais. Non. Ce Danois m'a étonné. D'ailleurs, j'ai une photo que j'ai envoyée il n'y a pas longtemps à ma fille pour montrer justement à quel point ce gars était positionné comme ça. Fantastique. Et nous, c'est un royaume éternel, c'est le royaume de Dieu. Vous vous rendez compte un peu, la grâce que Dieu nous fait est énorme responsabilité, parce que nous savons tous, j'ai parlé que nous passerons tous devant le tribunal de Christ. Faut pas qu'on en ait peur, mais qu'on en ait une crainte. Seigneur, t'as donné un don. Qui n'a pas reçu de don ici? Si quelqu'un lève la main, il fait Dieu menteur. Alors, attention, hein, ce que vous allez faire. Nous avons tous reçu de la part du Seigneur un don, une capacité pour pouvoir le servir. Alors une fois, il y a un jeune qui fait, quel est mon don? Ah oui, parce que c'est une question, alors, quel est mon don? Alors, quelle est la première chose à faire pour avoir un don? C'est, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Mais si j'essaye d'avoir, dire, oh, moi j'aime bien les enfants, je me verrais bien un moniteur d'école du dimanche. Ah, moi j'aime bien la musique, je me verrais bien la guitare. Ah, moi je. Non, c'est pas comme ça. Seigneur, tu m'as placé dans une église locale qui est merveilleuse. C'est merveilleux ici, non? Bon. Qui est merveilleuse, fantastique. Que veux-tu que je fasse? J'aime mon église. Je veux servir mon église. Que veux-tu que je fasse? Je vous assure que si vous commencez comme ça, c'était la prière de Samuel, hein. Vous vous rappelez? Bon. C'est son désir de Samuel. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et vous avez vu ce que Dieu a fait avec Samuel, hein. C'est un grand personnage de l'Ancien Testament, Samuel. Donc, l'église locale a un rôle merveilleux. Mais on ne s'en rend pas assez compte. Et on dit, ah ça, oui, c'est le travail de l'autre. Il n'y a plus qu'à, il faut qu'on, vas-y. Vous avez tous une tâche à faire pour votre église. Un, l'aimer avec tous ses qualités et ses défauts. Parce que l'église étant composée de chacun d'entre vous, non seulement on réunit toutes les qualités, mais aussi tous les défauts. Il n'y a qu'une église parfaite, c'est celle de Nanterre, bon, je sais. Non, sur cette église dans l'Apocalypse, il y en a combien que le Seigneur ne reprend pas? 2 sur 7. Au niveau proportion, on n'est pas très bien parti, hein. Et encore, les deux églises que le Seigneur gratifie de que de choses positives, il y en a une qui est en pleine persécution, hein, et l'autre, elle a l'air de bien tenir, hein, c'est Philadelphie, l'amour fraternel. Mais 5 autres ont des reproches, et des reproches graves. Ah, c'est sûr que si le Seigneur voulait nous faire des reproches, lettre spéciale au bien-aimé de Arles, ou lettre spéciale au bien-aimé de Nanterre. Mais le Seigneur nous aime. Et aux églises, il dit, repens-toi. Une nouvelle chance avec le Seigneur. Rien n'est jamais fini. Rien n'est jamais fini. C'est pas comme le permis de conduire. Quand t'as plus de poids, c'est foutu. Avec le Seigneur, même quand on n'a plus de points spirituels, parce que ça n'a pas été comme on l'aurait voulu, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Et on n'a pas besoin. On peut faire un petit stage de récupération de points spirituels. Hein, on pourrait faire ça. Tiens, on va lancer ça dans le monde chrétien. Non, le Seigneur veut nous faire repartir. Veut toujours. Aimez votre Église. Aimez votre Église. C'est le lieu béni où le Seigneur vous fait grandir. Vous savez ce que c'est qu'un frère clou? Une fois, je passais des diapos dans une assemblée, et puis il y avait une photo d'église, de frères et sœurs comme ça. Il y a quelqu'un qui fait « Ah, mon frère clou !» Ah, bon, qu'est-ce qui... Ah, il était toujours en train de me poser des problèmes, celui-là. C'était comme un clou. Ah, bah, dis donc, c'est l'amour fraternel un peu violent, là. Il m'a dit « Non, en réalité, il avait raison de temps en temps. » Parce que j'étais pénible. C'est une sœur, hein. Moi, fallait faire, c'est pareil. Il m'a dit, de temps en temps, il me piquait un peu parce que c'était mon frère clou. De temps en temps, et ben, dans l'église, quelquefois, on pique un peu, hein. Mais c'est souvent pour nous faire grandir. C'est souvent pour nous faire avancer. Donc, dans Actes 2, 47, on a cette certitude, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Avez-vous cette certitude que c'est le Seigneur qui vous a ajouté à cette église? Réfléchissez à ça. Sinon, aujourd'hui, l'église devient, comme je disais tout à l'heure, un club. Ah, j'ai appris que l'église d'Arles, le pasteur a été super gentil. Je vais y aller. Ah, j'ai appris qu'à l'église d'Arles, les gens qui faisaient de la musique sont super bons, sympathiques. Les agapes sont géniales. Les sœurs font des cadeaux fantastiques. J'y vais. Le Seigneur ajoutait à l'église c'est pas moi qui dis donc, je vais aller dans cette église. Parce que si je vais dans l'église pour des raisons aussi, j'allais dire presque bassement matérielles, j'en sortirai de la même manière. Mais si je sais que c'est le Seigneur qui m'a dit, Robert, tu vas dans cette église, parce que c'est moi qui le veux, parce que c'est là où tu vas grandir, c'est là où tu vas me servir, ben je vais pas dire, Seigneur, je laisse tomber maintenant cette église, je m'en vais parce que... Non. C'est lui qui m'a placé. Il n'y a que lui qui peut me dire maintenant, pour des raisons diverses, tu peux aller où tu vas quelque part. Déménagement, travail, etc., etc. Très important, très important. Donc, c'est lui qui ajoute. Et c'est lui qui nous inclut aussi dans cette église universelle qui est appelée l'épouse. Donc, on a dans le livre des Actes et aussi dans les Épîtres le nom des églises locales. Et chaque église avait Rome, Corinthe, la Galatie, Éphèse, Philippe, Smyrne, Pergame, etc. Donc c'était des églises locales qui étaient implantées dans des villes. Et malheureusement, peu à peu, on a changé, au lieu des églises locales, on est d'églises dénominationnelles. C'est pas biblique ça, faut faire très attention. Faut faire très attention, parce que au lieu de réunir les frères et sœurs, des églises différentes, ça les sépare. Moi, je suis de tel type d'église, et moi, je suis de tel type d'église. Je pense que le Seigneur souffre quand il voit ça. Parce qu'on est frères et sœurs, si c'est lui qui nous a inclus dans cette église universelle, je dois pouvoir aller dans n'importe quelle église. Parce que c'est là où, comme moi, aujourd'hui, je visite, et je me fais du bien. Et je me suis fait du bien ce matin au milieu de vous. J'étais heureux de chanter avec vous et de prier aussi avec vous. Alors, c'est pour ça que on a dans les églises des gens qui sont là et ça pose des gros problèmes. Parce que non seulement ils ne contribuent pas à la croissance de l'église, mais souvent, quelquefois, ce sont des gens qui vont d'église en église cherchant non pas la volonté du Seigneur pour savoir dans quelle église ils doivent être, mais leur propre volonté et leur propre désir. Alors quand une assemblée aujourd'hui est composée comme ça de personnes, un assemblage plutôt hétéroclite, ben c'est les souffrances. C'est les souffrances et j'ai vu des pasteurs qui pleuraient. Parce qu'ils n'arrivaient plus à avoir une unité dans les églises, parce que c'était des gens qui venaient de ceci, de cela, avec leur culture d'église. La culture d'église. On veut imposer là où on va ma culture d'église que j'ai toujours eue. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. On parle des cultures d'entreprise. J'étais enseignant, mais j'avais des élèves en apprentissage, donc j'ai fait visiter, je sais pas combien, de dizaines et de dizaines d'entreprises. De grosses entreprises comme la SNCF, à des petites unités, de start-up, etc. Les cultures d'entreprise sont très différentes. On ne peut pas comparer une entreprise suisse comme Schindler avec la RATP ou avec Air France. Tout ça, c'est ce qui fait la carte d'identité. Chaque entreprise a sa carte d'identité, donc son vécu, etc. Le problème, c'est qu'on retrouve la même chose dans les églises. Maintenant, vous avez une culture d'église, mais tellement forte qu'on a du mal à pouvoir aller dans cette église tellement... C'est tellement différent de ce que la Bible dit qu'ils ont une culture d'église due à leur histoire, due à leur passé, aux fondateurs, etc., etc. Ce Seigneur n'est plus le patron. Il y a un frère qui parlait d'une autre église en disant « De temps en temps, il prête son église au Seigneur. » Ça ne peut pas fonctionner comme ça. L'église locale est une bénédiction, mais l'ennemi... qui ne nous aime pas trop, vous le savez ça, va toujours essayer par tous les moyens de nous diviser, de nous abattre. Nous sommes dans un combat terrible, un combat spirituel, terrible. Et c'est pour ça que j'étais heureux ce matin de voir dans votre église qu'il y a du temps pour les uns et les autres pour pouvoir prier. Ça ne se fait pratiquement plus. Il y a tout un décorum, il y a tout un système, etc. Mais les frères et sœurs ne peuvent plus faire ce à quoi le Seigneur les a demandé, les adorateurs. Alors, il y a plein de systèmes, il y a plein de choses. Ayez à cœur de prendre du temps le matin, c'est bien, pour louer le Seigneur, même si c'est courtement, c'est fondamental, c'est un des rôles premier majeur de l'Église locale. Luther le voulait. Il parlait du sacerdoce universel. C'était bien cette idée, parce que c'est biblique. Malheureusement, maintenant, y a plein de choses qui font et on n'a plus vraiment le temps de prendre du temps pour prier le Seigneur. Que le Seigneur vous encourage dans ce sens, parce que c'est vraiment fondamental. Donc, on est tous unis et vous avez des versets merveilleux que vous connaissez. Je vais en lire deux ou trois seulement. Le premier, c'est dans l'Épître aux Corinthiens, qui nous parle justement d'église locale, Corinthiens 12:12, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un corps, d'accord, même un médecin serait d'accord pour le dire, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc l'église locale est un seul corps. Et dans ce corps, bras, jambes, œil, oreille, etc. L'analogie que Paul fait. Donc c'est pour ça que c'est fondamental que les personnes qui sont dans cette église aient la certitude qu'ils sont à leur place. Si d'un seul coup arrive quelqu'un qui veut être bras, j'en ai déjà deux, je ne sais même pas où je vais le mettre, devant, derrière, non. Ou alors quelqu'un qui dit, bon, maintenant l'église en est marre parce qu'il y a ceci qui ne va pas, parce que cela, ça ne me convient pas et tout, je m'en vais, paf, un bras au moins. Ah, pas non plus. Ça parle du respect de l'église locale. Mais il faut absolument, le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est lui qui, dans sa grâce, m'a donné de commencer ce travail pionnier à la maison. C'est lui qui te donne, qui te donne, qui te donne de faire ce travail dans ton église. Il faut que ça fonctionne de cette manière. 1 Corinthiens 12:12, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul, ainsi en est-il de Christ. Et quand on prend le pain et le pain, c'est le symbole du corps de Christ. Dans 1 Corinthiens 10, il dit, il n'y a qu'un seul corps, et il n'y a qu'un seul pain. Et nos frères l'ont brisé pour qu'on ait chacun une part, mais vous voyez bien au départ, j'aime cette image, qu'il n'y avait qu'un seul corps. Comment peut-on, dans une église locale, comme j'ai vécu ou connu, des gens qui font des désastres? Des désastres. 1 Corinthiens 12:18, maintenant, dans l'église locale, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, imaginez un corps avec que des bras. C'est plutôt pieuvre. Maintenant, donc, il y a plusieurs membres, chacun a besoin de... J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ça, il faut que ce soit aussi une mentalité. Pour nous, on est tellement égoïste, égocentrique et tout le bazar, qu'on dit, les autres, j'en ai pas besoin. J'ai besoin de toi. Et ne hiérarchisons pas les tâches dans l'église. On va dire, ça, c'est très important. Qu'est-ce qui est le plus important? Quel était l'homme le plus important pour l'apôtre Paul? Ben celui qui lui a donné le pouvoir de retrouver la vue. On en parle combien de fois dans les évangiles, dans les épîtres? Une fois. Alors que d'autres, on en parle 10-20 fois. Imaginez-vous que cet homme dit, oh non, Paul, attention, il en a tué plusieurs, mais je n'ai pas envie de me faire massacrer par cet homme-là. Il a obéi, et voilà ce qui s'est passé. J'ai besoin de toi. Il faudrait qu'on puisse dire, même avec le frère ou la sœur avec lequel on s'entend pas trop bien, j'ai besoin de toi et Christ a besoin de nous. L'église locale a besoin de complètement de revoir son statut. Ça devient impossible. Ça devient impossible. Parce qu'on a perdu les éléments de base, à savoir Dieu ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés, et donc cette vision d'unité. Alors, bien entendu, tout ça, c'est une question de gestion de l'Église, c'est une question de visualisation. Et j'avais à cœur de commencer à préparer un petit message pour plus tard. J'avais pris comme titre « Des chrétiens éclairés pour qu'une Église lumineuse ». L'Église doit être lumineuse. Mais parce que les chrétiens qui la composent sont sont éclairés. Alors c'est important pour nous de bien comprendre notre rôle dans l'Église. Le Seigneur nous demandera des comptes, un tribunal de Christ, c'est eh bien, écoute, je t'ai donné des capacités, je t'ai donné des dons, qu'est-ce que tu en as fait? Comment tu t'en es servi? Oh non, non, Seigneur, moi j'avais rien. Ah non, moi je, tu sais, je suis pauvre gars dans mon coin, tranquille, faut pas qu'on m'embête et tout. Bon, je chante à peu près bien, donc non, 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 non. Ne diminue pas le rôle que le Seigneur t'a donné. Et le Seigneur te dira, voilà, je t'ai donné ça, qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu en as fait? Et il nous encourage. Il nous encourage. Il n'y a pas... Il y a un article que j'avais lu il y a quelque temps. Les chrétiens... comment ça s'appelle? C'est générique. Vous connaissez les produits génériques? Alors le chrétien générique, c'est quoi? Normalement, les produits génériques, on vous dit que c'est les mêmes molécules que les produits et les autres produits. Moi, je pense que c'est vrai, hein, je ne suis pas pharmacien. Mais c'est moins cher. Donc le chrétien générique, c'est celui qui va être comme les autres, mais en faire le moins possible. Et les chrétiens génériques se retrouvent dans des assemblées discount. Alors l'assemblée discount, vous connaissez Darty, pas Darty, Lidl. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans des églises où on veut plutôt privilégier la quantité que la qualité. C'est ça le discount, hein, autant que je sache. Donc, allez, par tous les moyens, pub et autres, on met du monde, on met du monde, on met du monde. Des églises comme ça en Corée du Sud, c'était par milliers. Hein. Bon, malheureusement, il y a eu d'énormes problèmes, parce que c'était discount. C'était discount. C'était, voilà, j'en fais le moins possible. Je vais là-bas, j'assume mon devoir spirituel, puisque Dieu a une mauvaise idée, c'est d'avoir mis dans ma tête la pensée de l'éternité, livre de l'Ecclésiaste. Donc il faut bien que j'assume ma spiritualité. Bon, qu'est-ce que, dans certains endroits, bon, qu'est-ce qui est ouvert à cette heure-ci? Les témoins de Jéhovah, ok, j'y vais. Ah non, c'est trop tard, j'ai raté. Bon, alors j'ai chez Mormon. Oh non, les Mormons, j'en ai marre, ils sont pas... Hey, c'est ce que je vous dis, c'est vrai. Peut-être pas en France, mais dans certains pays, c'est comme ça. Et en France, malheureusement, des fois, c'est un peu aussi comme ça. L'église discount. Discount. C'est pas cher. L'engagement n'est pas cher. Je fais ce que je veux, au moindre prix. C'est bon pour les chrétiens génériques. Mais c'est pas votre cas, mais bien. Non. Pas de chrétien générique, du vrai chrétien, du costaud. Donc le Seigneur nous encourage. Hein. Et il faut vraiment, pour les gens qui viennent de l'extérieur, et là j'encourage ceux qui ont des responsabilités dans l'Église, qu'ils sachent faire le tri. Malheureusement, l'ennemi envoie aussi des faux chrétiens. Quelque chose qui est terrible. Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, dit, il viendra parmi vous des faux prophètes, des loups ravisseurs. Vous croyez que ça a changé? Et ça, il faut que ceux qui ont la responsabilité du troupeau, cette responsabilité énorme, énorme, pour laquelle eux aussi auront des comptes à rendre, pour chaque personne que le Seigneur leur a donné en partage, c'est ce qui était dit. Il faut vraiment que... Et je me souviens, une fois à Nanterre, on avait quelqu'un qui est venu, c'était un couple. Un couple, et il voulait avoir une place de responsabilité. Et moi, j'ai rien vu. Ils étaient très gentils, impeccables, connaissaient leur Bible et tout. Mais on avait un frère qui est au point du Seigneur maintenant. C'était un peu notre, entre guillemets, chien de garde. Et lui, il était plus âgé, bien entendu, il avait un peu plus la vista que moi. J'étais un peu trop jeune peut-être à l'époque. Et un jour, il m'a dit, dis donc, Robert, ceux-là, ils sont venus pourquoi? Pour construire ou pour détruire? Il y a des gens qui sont là pour détruire, pour prendre une autorité, pour prendre je ne sais quoi. Et il avait raison. Il avait raison. Et il venait d'une autre assemblée, qui nous l'avait un petit peu confié. On leur a dit, vous venez le chercher. Hein. Ben oui. C'est cette communion interassemblée. Jamais à Nanterre on a pris quelqu'un qui vient d'une autre assemblée sans que je veuille avoir une communication avec son pasteur. Jamais. Je donne des conférences un peu partout. Oh, qu'est-ce que c'est? Comme disait quelqu'un, oh, votre message, il était super. Et je crois qu'un serviteur de Dieu a dit, oui, je sais, le diable me l'a déjà dit. C'est pareil, il manque entre église locale un manque de communion. Vous avez des gens qui vont aller d'église en église, à chaque fois pour apporter la zizanie. On le sait très bien, c'est biblique, le Seigneur l'a dit. Alors il ne faut pas vivre dans la peur, mais il faut vivre vraiment, continuellement, dans la dépendance du Seigneur, se méfier de l'ennemi qui est méchant, se confier dans notre ami, hein, dont on a parlé tout à l'heure, être l'ami de Dieu, mais le Christ a dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Et ça, ça me... C'est pas possible, Seigneur, ami, tu ne me connais pas, jamais tu prendras un gars comme moi comme ami, ou un type comme nous comme ami. Je t'appelle mon ami. Pourquoi ? Parce que comme un ami dit tout à l'autre ce qu'il concerne. Voilà. Eh bien, je t'appelle ami parce que je ne te cache rien. Je veux que tu connaisses tout. Vous vous rendez compte un peu ? Alors vraiment, que ma prière soit que le Seigneur vous garde en tant qu'église locale. Je ne sais pas ce que sera demain, ni le lendemain, parce que l'ennemi est méchant, il veut nous détruire. Priez bien pour ceux qui sont vos responsables dans l'église. On ne se connaît pas tellement plus que ça avec Adrien, on se connaît un peu, on a discuté un peu, mais je ne vous connais pas personnellement, je ne connais pas la température de l'église. Mais il faut vraiment veiller, prier. Chacun d'entre nous doit dire, est-ce que je suis vraiment là de la part du Seigneur ? Est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui m'a placé dans cette église ? Montre-moi, Seigneur, et si je ne l'ai fait qu'à ma tête, ben, convainc-moi quand même que même ma tête, à 6 mois, c'était bien. Voilà. Donne-moi cette assurance que j'aime mon église locale, que je veuille servir mon église locale, parce que c'est ainsi que je peux te servir. Il n'y a pas de chrétien à Robinson Crusoe. Aujourd'hui, c'est une plaie. Combien de chrétiens ne veulent plus aller dans des églises ? Et il dit, moi j'ai ma Bible, j'ai ma prière, j'ai tout. Ben, je dis oui, c'est sûr. Je dis donc le Seigneur, quand il dit d'aller dans une église locale, il a tort. Ah oui, mais attends, si tu savais tout. Vous avez lu l'Épître aux Corinthiens ? Vous seriez resté ? Levez la main ceux qui seraient restés dans l'église de Corinthe, vu ce que l'apôtre Paul dit. Moi je serais parti. Est-ce que Paul dit aux Corinthiens, aux frères et sœurs de l'église, partez vite de cette église où il y a tellement de désordre, l'alcoolisme, l'adultère, tout, il y avait tout. Ils faisaient des procès entre eux. Enfin, vous connaissez, c'est une église abominable à vue humaine. Jamais Paul ne dit de partir de cette église. Jamais. Donc, même dans une église imparfaite, comme moi je suis imparfait, je veux rester. Je veux avancer. Donc le Seigneur nous encourage. Et puis autre chose également, que je terminerai avec ça. Donc j'ai rencontré beaucoup de responsables d'église, hein, qui sont dans la souffrance, dans les pleurs. Je n'exagère pas. J'en connais qui sont sinon dans le burn-out quand ils sont pas loin. Parce qu'il n'y a plus le lien berger-brebis. Dans l'église locale, le Seigneur a donné des bergers. Et nous, si on n'est pas berger, on est donc brebis. Et aujourd'hui, ce lien d'affection, ce lien de responsabilité, et les versets sont nombreux, on a ça dans l'Épître aux Hébreux, dans les Épîtres de Pierre, n'existe plus. On regarde le pasteur ou le responsable comme on regarde son patron au boulot. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Et quelquefois, on le regarde comme un salarié. Je connais une assemblée, je me suis un peu fâché avec les frères et sœurs d'église, parce qu'il s'est passé quelque chose qui m'a montré, il le considérait que comme un salarié. C'est son travail, on le paye pour ça. Véridique ce que je vous dis là. Alors entre ceux qui quittent les églises, parce qu'ils jouent les Robinson Crusoe, c'est par paquet. Il y a même un frère qui a écrit un bouquin pour eux. Je ne me rappelle plus de son nom, mais bref. Reviens dans ton église locale. Reviens dans ton église locale. Même si elle n'est pas parfaite. Parce que tu es toi-même imparfait. Et puis ceux qui regardent leurs responsables comme des salariés, qui n'ont aucune... Il est dit d'avoir de l'affection pour eux. Il est dit d'avoir un minimum de... Vous allez chez le médecin. J'arrête avec ça. Vous allez chez le médecin, ça coûte combien aujourd'hui d'avoir le médecin ? 20 et quelques euros, non ? 25 euros. Il vous soigne en combien de temps ? 10 minutes, un quart d'heure ? Ah ben il est sympa le vôtre. À Nanterre, on pénurie, je ne sais pas si c'est pareil pour Arles, mais bon, on a pénurie de médecins. Tu arrives, tu as intérêt à dire ce que tu as déjà. Parce qu'il n'a pas le temps de chercher. Voilà, donc je souffre, je pense que c'est une rhinopharyngite. Effectivement, rhinopharyngite. Bien, médicament, 20 et quelques euros, ça dure 10 minutes, un quart d'heure maximum. Je ne sais pas, pour vous ici à Nanterre, à Arles, à Nanterre, quand je discute avec elle, c'est minimum 2 heures. 2 heures. Je sais pas, peut-être de service spirituel. Comment ça va, tes problèmes, c'est ceci, c'est cela, encouragement, nanana, prier ensemble, lire un passage ensemble. 2 heures. Coût, 0 euros. L'un a travaillé pour 10 minutes pour un moment, l'autre a travaillé 2 heures pour l'éternité. Eh oui! Eh oui! Faut le comprendre, ça. Eh ben non, un médecin, c'est plus important que le pasteur. L'un vous soigne pour la santé, l'autre c'est pour l'éternité. Il y a une petite différence de temps. Il y a perte totale de cela. Alors, aujourd'hui donc, pour nous, bergers, ou pour nous, brebis, il faut qu'on considère notre responsable, non pas comme un chef d'entreprise ou d'une société, mais sur quelque chose de précieux, l'église locale. J'aime énormément l'Ancien Testament, et en particulier le tabernacle. J'ai fait des études assez complètes là-dessus. La sainteté qui régnait dans le tabernacle, c'était extraordinaire. Les relations entre les Lévites, c'était extraordinaire. On a perdu ça. L'assemblée locale, c'est un lieu 3 fois saint. Bien plus saint que le tabernacle de Moïse. Bien plus saint. Pourquoi ? Parce que le Christ est au milieu de nous. Eux, ils l'avaient aussi, c'était la nuée. Vous savez, vous connaissez ça. Mais vraiment, ils étaient tellement loin de la vérité que la nuée est partie. La Shérina est partie. Et le temple était Ichabod. Ichabod, ça veut dire sans la présence de Dieu. Imaginez une église locale. Est-ce que ça peut exister qu'une église locale n'y ait plus la présence de Dieu? Non, oui, bah oui. Exemple, la Odyssée. Le Seigneur est dehors. Mais ils ne savent pas. L'église qui est dedans, ils ne savent même pas que le Seigneur est dehors. Et le Seigneur dit, je frappe à la porte. On s'en sert souvent de ce verset pour l'évangélisation. Mais ça s'adresse d'abord à une église. Le Seigneur est dehors de son église. Et à une autre église, Éphèse, il dit, si tu continues comme ça, je retirerai le chandelier. Le chandelier, c'était quoi? La présence de Christ, on sait, la menorah, cette branche. Ah, je veux pas croire que c'est comme ça pour vous. Mais il faut savoir ces choses. Il faut savoir ces choses. Que le Seigneur nous encourage à revisiter notre compréhension de l'église locale, ce qu'elle est, créée par le Seigneur, ce que le Seigneur veut que nous aimions, notre église locale, que nous cherchions sa gloire dans l'église, c'est fondamental, et le Seigneur pourra, parce qu'il le veut, il pourra nous bénir. Oui, Seigneur, merci, parce que comme tout ce que tu as créé, c'est vraiment merveilleux. Et l'église locale, c'est une de tes grandes trouvailles. Tu as mis des gens tellement différents ensemble, unis par le salut en Jésus-Christ, par la nouvelle naissance, tu as fait de ton peuple. Et ce peuple tellement disparate, hétéroclite à vue humaine, devient unique et un en Jésus-Christ. Un seul corps. Père, nous te demandons que chaque église locale vive cela. Et pour mes bien-aimés d'Arles, que tu les encourages aussi dans ce sens, dans leur relation, que chacun sente qu'il a besoin de l'autre. Et que l'autre ait à cœur de lui apporter ce dont il a besoin. Oui, Seigneur, tu le veux ainsi. Tu veux nous encourager. Tu veux aussi quelquefois, comme des pierres, nous polir les uns aux autres. Mais Seigneur, tu le fais parce que tu nous aimes et tu veux nous faire avancer. Merci, Seigneur, pour cette assemblée à Arles, qu'il soit dans cette ville une lumière dans la ville, quelque chose dont tu te sers pour annoncer ton Saint-Évangile autour de toi, autour de nous. Merci Seigneur, en tous les cas, pour tous tes bienfaits. Ô Père, quelle grâce de savoir que nous sommes tes bien-aimés, tes serviteurs, tes ambassadeurs. Oui Père, tu te sers de gens tordus comme nous, et si peu valeureux, pour faire un travail extraordinaire. Nous avons en nous la parole de la vérité, qu'est l'Évangile. Seigneur, donne-nous de comprendre ces choses, de les vivre vraiment pleinement, et qu'on puisse vraiment faire ta joie, oui, ta joie de Père. Et que l'Éternel, la joie de l'Éternel soit notre force. dans tout ce que nous faisons. Au nom du Seigneur Jésus.